Un invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h, 21h, Tour de piste est sur Principe Actif.
Yusaka Maezawa, c'est le nom du premier touriste de l'espace. Milliardaire de 42 ans, ce japonais a réservé un vol privé vers la Lune d'ici l'horizon 2023 sur la compagnie du fantasque millionnaire, milliardaire sud-africain Elon Musk, propriétaire de la marque Telsa. Le prix est assez tabou à l'heure actuelle. Quelques jours après le solstice d'été, Principe Actif nous propose, ou vous propose, pour le simple prix d'une heure de votre temps, un voyage aller simple vers la galaxie. Que dis-je? Vers l'univers de mon amigo, mon camarade, mon binôme, mon invité. Ici Laurent Niki. Tel l'arroseur arrosé, il sera questionné pendant une heure environ, 60 minutes, c'est court. Et pour cette dernière de l'année, Tour de piste devient détour de piste.
Ball again so high, then again so low. It tore into a flower garden, and no one was allowed to go. I kept the gypsy lady, all dressed in yellow and green. Come in, my pretty little boy, and get your ball again. I won't come in, I shan't come in, without my playmates all. I'll go to my father, tell him about it, that'll cause tears to fall. Keep first, show him an apple seed, then again go ring. Then she showed him a diamond that enticed him. She took him by his lily white hand. She led him through the hall. Put him into an upper room, and no one could hear him call. Oh, take these fingerings off my fingers, smoke them with your breath. If any of my friends should call for me, tell them I'm at rest. Bury the Bible at my head, the Testament at my feet. If my dear mother should call for me, tell her I'm asleep. There's a Bible at my feet, the Testament at my head. If my dear father should call for me, tell him that I am dead.
Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Nicolas Miliani. J'ai eu l'honneur d'être interviewé ici il y a à peu près un an par Laurent Niki, qui est d'habitude l'hôte de cette émission, qui me fait l'honneur de prendre sa place pour l'interviewer. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Nicolas.
Alors qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, Laurent?
Alors on vient d'entendre les Nelson Hawaias. Le morceau s'appelle Fatal Flowers Garden. C'est un morceau de ce qu'on appelle la old-time music, c'est-à-dire un morceau de l'entre-deux-guerres, cette bonne vieille musique que j'ai découvert un peu sur le tard grâce à des gens comme Stéphane Deschamps, dont on parlera en cours d'émission. Avant toute chose, je suis ravi d'être à l'origine de ta première émission en tant qu'animateur, mon cher Nicolas.
Mais je te remercie, mon cher Laurent.
Que première fois ensemble. T'es encore plus beau derrière un micro. Je me rends compte que c'est un exercice difficile aussi. Donc, j'ai choisi des titres, en fait, pour l'émission de ce soir, par rapport à ce que tu m'avais demandé qui m'ont ouvert un peu les portes d'un nouveau monde musical, ou des titres qui sont synonymes de moments importants de ma vie, des moments de rencontres. Je trouve que la musique favorise les belles rencontres, tu en as un exemple vivant. Et voilà, elle m'a souvent ouvert les portes d'un monde fantasmé, notamment au milieu de l'adolescence et puis bien avant, pendant l'enfance, dans le milieu musical dans lequel j'ai baigné.
Bah, quelle belle présentation.
Et Nelson's Hawaiians, pour une raison simple, c'est que je suis depuis le 10 mai 2020 papa du jeune Hippolyte. Et ce morceau m'est revenu à partir de l'arrivée d'Hippolyte, enfin dans sa vie ultra-utérine. Ce morceau m'est revenu naturellement dans les oreilles. Et puis je trouve qu'il y a une espèce de fraîcheur dans cette vieille musique de l'entre-deux-guerres. Et une espèce de notion un peu de naissance, de pureté qui me plaît beaucoup. En tout cas, c'est la bande-son de l'arrivée de mon fiston. Et je tenais à ce que l'émission démarre avec ça.
Je suis très ému de pouvoir entendre ce morceau. Et on salue tous l'arrivée au monde de notre cher Hippolyte. Et ça me renvoie un peu à ce qui était ma deuxième question après « Qui es-tu ?» Mais je pense qu'on va le découvrir grâce aux futures questions. Les premiers émois musicaux de Laurent ?
Alors, les premiers émois musicaux, en tout cas, ceux dont je me souviens, parce que le temps déforme un peu la mémoire, le milieu musical, enfin, l'environnement musical dans lequel j'ai grandi, je le dois bien évidemment, comme la majorité des gens, à mes parents. Mon père m'a fait écouter, dès l'enfance, Elvis Presley, pour qui j'avais une admiration sans bornes. C'était, je sais pas, cette espèce de mélange, ce musicien convergent entre la chanson populaire américaine et les rythmes afro-américains m'a tout de suite touché. Je me rappelle quand il a cassé sa pipe en 77, je crois, j'étais très triste. Il me faisait écouter les standards en 45 tours. Il m'a fait écouter Ray Charles, le morceau Hit the Road Jack. Et c'est des titres que j'écoute encore toujours aujourd'hui. Alors, je pense que je les écoute encore aujourd'hui parce que, bon, pour moi, c'est des héros. Parce que je retrouve, j'ai toujours une recherche, j'aime bien beaucoup la musique qui vient des rythmes afro-américains. Elvis Presley était comme moi, un fils à maman, un mec du sud de Tupelo, un mec du Texas, et il enregistrait son premier titre pour Sun Records My Happiness en 53. Je me suis beaucoup identifié à ce personnage. C'était moi, il me faisait rêver. Il incarnait une espèce de liberté. Et voilà, je l'ai gardé. Je l'ai gardé dans mes goûts. Et mes goûts sont très orientés vers cette musique américaine et particulièrement vers l'Amérique sudiste, avec ces espèces de campagnards. On reparlera. Je trouve que le monde rural et la campagne aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis a produit des musiques extrêmement belles. On n'en parle pas toujours. Peut-être parce qu'il y a une espèce de vision en France, en tout cas très parisienne, des salons selon laquelle il faudrait que la musique, pour être belle, soit savante ou urbaine. Moi, je trouve que, et en plus, je suis un gars d'Évreux, donc qui est quand même une commune d'un département de l'Eure, je trouve qu'elle peut livrer parmi les plus belles pages de la musique du XXe siècle. Je te propose qu'on écoute My Happiness d'Elvis Presley, et puis qu'on se retrouve, mon cher Nicolas, dans quelques minutes.
Evening shadows make me blue, when each weary day is through, how I long to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss, always thinking how I miss my happiness. Years it seems have gone by since we shared our dreams, but I hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue. Any place on earth will do.
last as long as I am with you. My happiness, a million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. I'll be no blue memories then. Whether skies are gray or blue, any place on earth will do. Just as long as I'm with you, my happiness.
Alors, comme dirait une ancienne première dame, merci pour ce moment, mon cher Laurent. Je me permets juste de corriger en disant que Tupelo est dans le Mississippi et pas au Texas. Oui, oui. C'est sans doute l'émotion,
c'est l'émotion de
notre rencontre et notre dernière émission qui t'a fait faire ce faux pas, mais je te pardonne, mon cher.
Et puis le Mississippi, on en reparlera tout à l'heure, parce que
le Mississippi aussi, c'est le terreau d'une des musiques, le blues, qui m'a aussi bercé. C'est grâce notamment au blues qu'on s'est rencontrés.
C'est notamment au blues, on en parlera après, en cours d'émission.
Donc tu t'es un peu comparé au pas d'Elvis en disant que c'était comme toi un enfant du sud. On va parler de tes origines.
Est-ce qu'il
va
nous... un fils à maman.
Un fils à maman, mais t'es aussi quelque part un fils à papa du sud, un enfant d'immigré.
Je suis un enfant d'immigré.
T'es un enfant d'immigré. Et moi, c'est une question qui me parle personnellement et qui évoque aussi beaucoup de choses. Par rapport au débat actuel sur l'identité, sur l'assimilation des gens, etc. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet de notre émission. En revanche, moi, ce que j'ai découvert en te rencontrant, c'est une grande ouverture d'esprit. Le fait que tu sois donc tu exerces le métier de discothécaire, j'ai l'impression, c'est mon analyse toute personnelle, donc j'ai envie d'avoir ta réponse devant ce micro, que je tiens à préciser... Et bâché, hein, faut respecter les normes du Covid-19. J'ai découvert en fait quelqu'un qui faisait fi des frontières, qui ne se balisait pas que par les styles, mais plutôt par les émotions. Et je me suis toujours demandé si d'être le fils d'un immigré italien, ça ne t'avait pas permis d'avoir ce regard sur les frontières musicales et d'être capable de t'en échapper et de passer outre, en fait. Est-ce que tu penses que c'est une des clés de ton ouverture d'esprit et de peut-être le métier que tu fais, le fait de partager, en fait, des passions, d'aller à la rencontre des gens, est-ce que tu penses que ça, c'est une des réponses ou pas du tout?
Je sais, c'est difficile de répondre à cette question. J'ai quand même essayé de le faire. Je suis peut-être un Italien contrarié, peut-être qu'il y a eu un saut de génération. Effectivement, mon père est un enfant de l'exil. Peut-être que c'est une manière aussi. Je suis sensible aux musiques de la Méditerranée. Elles me parlent, alors que pourtant je suis né à Évreux, en France. C'est peut-être une manière de me réapproprier cette culture-là. Voilà. Peut-être qu'il y a une mémoire dans l'ADN. Et je pense aussi. Je trouve que la musique, c'est un moyen aussi de se réapproprier ses racines. Et puis quand je parle de portes fantasmées, c'est aussi sur. Là, je suis en train de lire Cavana. Je trouve que c'est un rapport parce que ça parle de toute cette Italie des. Voilà des Italiens dans là pour Cavana dans le Paris des années 5 de l'entre-deux-guerres. Ça me parle et pourtant j'ai jamais connu ça. Et on a ouvert l'émission avec un morceau des années 30. C'est un morceau qui me rend nostalgique. On parlera de la nostalgie et de la musique aussi en cours d'émission. Et ça me rend nostalgique d'une période que j'ai pas connue, mais qui est comme inscrite en moi. Et pour ce qui concerne l'exil. Je devais mettre un morceau d'Enrico Macias, j'ai quitté mon pays. Je trouve que, alors j'aime pas particulièrement Enrico Macias, j'adore cette chanson. J'ai écouté de la musique, beaucoup de musique issue de l'underground. Et il y a une règle de snobisme évidente qui voudrait que parce qu'on écoute de la musique issue de l'underground, de la musique branchée, il faudrait pas aimer la chanson populaire à succès. Moi, je trouve qu'il a juste fait une belle chanson. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles œuvres qui naissent d'une rupture affective majeure. Et je pense que pour les générations d'immigrés dont je ne suis pas parti, mais je suis un fils d'immigré, je suis pas un immigré, je suis un Français, peut-être un Italien contrarié, et je pense que c'est un bon moyen de se sentir bien dans une chanson, de se réapproprier sa culture, de se sentir chez soi partout.
et à la fois nulle part, quoi. Et effectivement, peut-être que le fait d'être fils d'un émigré italien, ça change quelque chose, mais en tout cas, je suis sensible à la musique méditerranéenne, mais comme à beaucoup d'autres musiques, comme au blues du delta du Mississippi, comme au maloya de la Réunion, parce qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un sentiment humain universel, tant qu'au bar de, au clivage de genre, hormis retrouver des disques dans les bacs, je trouve pas ça très intéressant. Dès lors que c'est de l'ordre de l'émotion et de l'humain, que ce soit de l'opéra, du hip-hop, je sais pas moi, du blues, de la chanson française, de la tradition italienne, pour moi ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça me parle ou ça me parle pas, un point, c'est tout.
Bah, c'est sûr. Merci pour cette réponse.
Elle était un peu longue. Hein.
Mais c'est une confession publique. Mets-toi à nu, mon cher, on va parler de confession publique plus tard, on va parler d'Underground aussi. Et on a parlé d'Italie, donc on va entendre... qu'est-ce qu'on va entendre ?
Alors, on va entendre Luciano Pavarotti, le morceau, l'extrait, c'est un extrait du morceau « O Lolace di Latiri Takamisa », c'est extrait de « Cavaliera Rusticana », c'est un opéra en un seul acte composé par, là je lis mes notes, Pietro Mascagni. J'écoute très peu de musique classique, c'est avant tout ce morceau un hommage à ma chère maman, qui adorait l'opéra italien, qui n'écoutait pas beaucoup de musique, mais qui avait le sens du beau. Moi, je me rappelle quand, dans mes premiers pas de chanteur, je suis un très mauvais chanteur, je crois que j'aime trop la musique pour en faire, elle repérait très facilement un morceau des Kings et aimait ça, les tout premiers Jimmy Cliff, qu'elle trouvait super quand elle les entendait à la maison. Elle écoutait assez peu de musique, mais elle avait l'oreille. Et j'ai sans doute été marqué aussi inconsciemment par les ambiances d'opéra qui parfois, qu'on entendait parfois et qui dans la cuisine de la maison. Donc choisi pour lui rendre hommage. Parce que l'opéra s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle les musiques savantes. Et elles sont parfois et souvent opposées à tort aux musiques dites populaires. Et la musique de Pavarotti, enfin ce morceau interprété par Pavarotti, un des plus grands ténors, est aussi marqué par la chanson populaire du sud de l'Italie. Et puis Pavarotti, c'est un gars qui vient de milieux assez modestes, comme un gars comme Adamo. J'aime beaucoup Adamo, j'aime le personnage. Autant Enrico Macias, je le trouve pas particulièrement sympathique, mais ça c'est pas très grave.
Justice pour Adamo.
c'est gens qui viennent des milieux modestes et qui tutoient les étoiles grâce à la musique. Moi je trouve ça assez chouette et il y a une ambiance dans ce morceau qui est absolument extraordinaire. C'est 2 minutes 21 secondes de pur bonheur.
Oh,
Bah, merci pour ce bel hommage à ta maman et ton papa. Alors Laurent, quand on s'est rencontrés, c'était lors d'une émission de radio, tu étais venu m'interviewer chez moi. J'ai découvert que tu, lorsque tu étais venu, lorsqu'on avait discuté, que tu exerçais le métier de discothécaire. Qu'est-ce que c'est discothécaire en fait? Ça consiste en quoi?
Alors discothécaire, ça consiste maintenant en 2020 à l'ère du web et d'Instagram. Ça peut faire rire, mais à prêter non pas des livres comme le font les bibliothécaires, mais des disques. Donc moi je suis arrivé à la discothèque, je travaille à la médiathèque d'Evreux, on a une très belle médiathèque à Evreux. Je suis arrivé en 1995, j'ai connu l'âge d'or du disque, toi qui es producteur d'artistes, qui publie des disques, tu sais de quoi je parle, j'ai connu un âge d'or où la transmission de la musique se faisait par le disque. Aujourd'hui c'est différent, elle est véhiculée par le net, par le web, j'écoute toujours des disques, de moins en moins, j'écoute beaucoup de musique en streaming et tout ce qui passe par les fourches codées, quoi.
Tu étais discothécaire à la médiathèque d'Evreux depuis quelle année?
Je suis arrivé en juin 95 après avoir fait mon service militaire accidentellement sur un malentendu avec l'administration militaire parce que je me sentais mauvais soldat et j'aurais pas voulu.
T'as rejoint le
la patrie, tu vois.
T'as rejoint le bataillon de la musique. Est-ce que tu te sens plus proche d'un bibliothécaire ou d'un disquaire ou
Alors, j'oserais dire les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, parce que si tu veux...
C'est pour ça que t'as raté l'armée, en fait.
Les deux, parce que à la fois, il y a évidemment des points de similitude avec le métier de disquaire, puisque t'es aussi un passeur, un diffuseur de musique. L'industrie du disque, il y a une crise majeure sur la musique enregistrée a connu une crise majeure ces dernières années. La différence avec un disquaire, c'est que on n'a pas de relation marchande avec notre public et ça change tout. C'est-à-dire que je sais très bien que les disquaires et les disquaires indépendants, ceux qui restent, fonctionnent certainement. C'est des militants qui fonctionnent à l'enthousiasme. Nous, d'une part, on a une mission de conservation. Quand j'achète un disque à la bibliothèque, on le garde. Enfin, au moins quelques années, il peut avoir une valeur patrimoniale. Moi, j'ai une certaine liberté dans mon travail, et mon travail, je crois, et là, je reprends des termes d'un ami. Mes missions, c'est à la fois de satisfaire et aussi de surprendre. Et je suis pas tenu par, je suis pas dans une économie de marché. En fait, bien sûr, mon boulot, c'est de satisfaire le public. Mais à l'intérieur de ça, avec les budgets que j'ai quand même beaucoup de liberté pour fabriquer un public et essayer de faire passer les musiques dans lesquelles je crois. Parce que je les vends pas, je les prête. Et c'est gratuit.
Et ce public, c'est des gens que l'on nomme comment, en fait, dans le cadre
des auditeurs.
Des auditeurs. Et ces auditeurs, je suppose qu'il y a un nombre certain ou certaines de fidélisés.
Oui,
la parole
oui,
de Saint-Laurent.
Il y en a beaucoup qui ont décroché, notamment les jeunes générations. Les 15-25 ans viennent peu emprunter des disques. Paradoxalement, dans les 15-25 qui réclament des disques, qui réclament des publications vinyliques, comme quoi...
Oui, c'est un...
C'est assez paradoxal. Aujourd'hui, honnêtement, pour faire une réponse de professionnel... la majorité de mon public, enfin pas de mon public, parce que c'est pas ma médiathèque, je suis pas le seul à travailler à la discothèque des.
Moi j'étais persuadé que c'était la médiathèque Laurent.
C'est plutôt des gens à partir de 40 ans. C'est de nouveau des gens qui écoutent de la musique classique. Moi je me rappelle que dans les années 90, j'achetais beaucoup de disques à destination des 15-25, qui ont quasiment déserté la bibliothèque pour la musique en tout cas aujourd'hui. Donc il va falloir réinventer les services. Et c'est un public de gens de mon âge et plus, en fait, qui sont toujours attachés au support. Sans doute parce qu'il y a une qualité de restauration, il y a une pertinence, il y a une motivation et une pertinence musicologique dans ce que proposent les éditeurs, et que c'est un support auquel, tout simplement, ils sont attachés, parce que c'est celui avec lequel ils ont grandi.
Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu verrais comme place des médiathèques et des discothécaires pour attirer justement un jeune public? J'ai également découvert lorsque nous sommes devenus amis, parce qu'on est amis,
presque que
frères. Oui, c'est sûr, que tu organisais des rencontres sous forme de conférences, un peu table ronde avec différents acteurs du monde de la culture qui ont rapport à la musique. Ça peut être des auteurs de livres. Il y a eu notamment Stéphane Deschamps avec un concert avec le groupe Muddy Gurdy que nous saluons. Il y a eu Serge Laïc également. Est-ce que tu penses que tu pourrais, que ce serait un moyen de faire venir des jeunes pour découvrir une culture un peu plus, j'allais dire, qui s'inscrit dans une continuité du temps et découvrir des choses qui ne soient pas forcément d'actualité, mais qui dépassent le cadre juste de l'éditorial avec une date de péremption?
Alors, peut-être, mais à condition de préparer le terrain à ce travail. Et pour répondre, c'est bien que tu aies parlé de Muddy Gurdy, on en parlera en cours d'émission, parce que c'est des gens super, et parce qu'aussi ils sont héritiers d'une tradition. Tu vois, la médiathèque, par exemple, aujourd'hui, un des disques les plus empruntés, parmi les disques les plus empruntés en 2019, il y a eu effectivement Muddy Gurdy, il y a eu les American Primitives, deux coffrets de pré-war blues de absolument merveilleux qui ont été enregistrés dans l'entre-deux-guerres.
Je pense ta part de responsabilité.
Le groupe
dans
Del Grace, il y a une part de responsabilité, la mienne sans doute, parce que c'est de la musique. Enfin, je crois fort. Je crois qu'il y a une beauté incassable dans cette musique, et c'est ce que me disait Stéphane Deschamps, que cette beauté, elle est incassable. C'est un genre, le blues, qui a au moins un siècle, même s'il n'y a pas d'état civil pour cette musique-là. C'est aussi un sentiment humain universel. Il y a une espèce de vérité dans le blues quand il est joué comme ça, comme les artistes dont on vient de parler. On écoutera Herb Bernstein en cours d'émission. Moi, j'y crois dur comme fer. Ça fait 25 ans que je dis aux gens, je leur conseille pas que cette musique-là, mais que je dis qu'il faudrait qu'ils écoutent, qu'ils t'en écoutent. Et puis, il y a aussi, on a eu la chance, et on reviendra sur cette histoire, on a eu la chance d'avoir de très bons programmateurs à Évreux, notamment, et surtout en ce qui me concerne, parce que quand je suis revenu à Évreux, c'est lui, très rapidement, qui a pris les rênes de l'abordage, Jean-Christophe Aplincourt, qui a aussi mis sur le devant de la scène tous ses héritiers, tous ses pionniers d'une authenticité très américaine. Il y a aussi eu des choses très modernes. Il a programmé aussi de la musique électronique. J'aime beaucoup ça. Les derniers artistes hip-hop à la pointe, du rock anglais à guitare, des artistes comme Lassa, comme Sushi Laraman. Mais je trouve que il a créé son public avec cette musique-là. Et le fait de nous, chacun de notre côté, et puis d'autres gens, de faire la promotion pendant des années de cette musique-là, parce qu'on y croit dur comme fer et parce qu'on pense qu'elle est très belle et parce qu'on a envie, parce qu'on est des amoureux de la musique, de la faire découvrir au monde entier, je pense que ça a préparé un public à Évreux qui est aujourd'hui particulièrement sensible à cette musique. Et puis historiquement, Évreux a été marqué par la présence américaine de 53 à 67 pendant la période des bases de l'OTAN. Et il y a des vieilles générations de gens qui sont devenus acteurs, qu'on travaillait en radio, qu'on fait la radio, qu'on programmait des groupes et qu'on était aussi baignés dans cette ambiance musicale très américaine.
Alors une ambiance.
C'est des réponses très longues, pardon Nicolas.
Une ambiance très américaine, une ambiance underground. Et tu as parlé de 1967, ça nous amène au prochain morceau, Femme Fatale du Velvet Underground.
Love.
super morceau du premier album du Velvet Underground qui, on dit souvent que cet album-là, il a peu vendu, mais que toutes les personnes qui ont acheté ce disque ont monté un groupe de rock où on fait perdurer l'esprit du rock'n'roll. Pour ma part, c'est notamment grâce à mon oncle que j'ai découvert ce groupe et que donc j'ai pu remonter le fil du rock'n'roll et toutes les musiques populaires électrifiées. Très bon choix, mon cher Laurent.
Merci, Nicolas.
Tout à l'heure, tu as cité la salle L'Abordage. Je te vois ici en marinière. Est-ce que tu as un rapport à la mer, à l'océan, je veux dire, particulier, aux musiques maritimes ou pas du tout?
Alors, je pense qu'on fera une escale dans les Caraïbes tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a une histoire portuaire des musiques populaires. Je suis très sensible à la musique qui vient des Caraïbes. Et pas seulement la Jamaïque, au rayonnement des îles aussi. Et puis quand même, de toute façon, tu le sais, j'ai fait une école maritime. Alors, il y a une histoire qui est assez rigolote, je vais essayer de pas être trop bavard.
Mais c'est intéressant.
Je suis parti, j'étais en échec scolaire à la fin du collège, ce qu'on appelle un cancre.
Enfin, j'étais un cancre magnifique.
Scolaire en tout cas. Et mon père m'a parlé d'une école maritime où on pouvait apprendre la pisciculture. Et mon signe astrologique c'est le cancer, je suis très attiré par l'eau et je suis parti pour 4 ans en école maritime. Sauf qu'en fait c'était alors d'abord en Loire-Atlantique à Guérande précisément dans le lycée d'enseignement professionnel de Guérande. À l'époque il y avait qu'une seule école publique pour apprendre ce genre de métier et puis après je suis parti dans le Finistère Sud.
Ah.
À l'Anilis.
Très beau.
Et comme disait Miossec, on s'attache à Brest comme c'est des fonds. On pleure deux fois quand on va à Brest.
Comme dans le Nord.
On pleure quand on arrive et on pleure quand on repart. Je trouvais ces endroits très attachants. Et je reste persuadé, je sais pas si je serais capable de l'expliquer, que la mer a charrié quand même pas mal de choses. On parlait des exilés. Avec la musique afro-américaine, on est dans une musique qui descend, qui est une musique qui est issue de l'esclavage.
Et c'est en bord de mer qu'on s'est rencontrés également, ne l'oublie pas.
C'est en bord de mer qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et puis, la mer, c'est l'horizon devant soi. Tu parlais justement tout à l'heure de faire tomber les barrières de genre et les clivages. Et moi, pour avoir vécu 2 ans à côté de Brest, c'est quelque chose de très fort d'avoir l'horizon devant soi. Et moi, j'ai l'impression que je connais pas la musique parce que j'ai l'impression que tout reste à découvrir et que c'est aussi un espèce d'océan comme ça face à moi.
Tout reste à découvrir, un océan. C'est un peu un des questionnements que j'avais en tête quand je suis venu tout à l'heure sur la route. Je me disais, tout comme le support physique, le disque un peu en dégringolade, la presse musicale. Quel est ton rapport à la presse musicale? Je sais qu'il y a quelques mois, on a vu ton mini-portrait dans Magic, il me semble.
Oui,
où
oui.
Où tu
oui.
présentais une sélection d'albums qui te parle et que tu trouvais... notable. Où as-tu découvert les groupes qui ont forgé le terreau de tes cultures musicales? Dans quel, je suppose que tu devais lire notamment rock and folk?
Pas plus que ça. J'ai commencé à lire la presse rock et la presse musicale à la fin des années 80, au début des années 90. Et j'ai souvenir que le premier mensuel que j'ai acheté à l'époque, c'était Les Inrecuptibles.
Ah, Les Inrecuptibles ouais. Avec notre ami commun Stéphane Deschamps.
Ah oui, je sais pas si au tout début Stéphane, qui est pour beaucoup dans mes goûts musicaux, travaillait déjà aux Inrocs, mais ça devait être le début et je crois me souvenir que à l'armée je lisais beaucoup les articles de Stéphane, en effet, avant de le rencontrer en vrai.
Qu'est-ce que t'as découvert? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir comme groupe Stéphane?
Alors, il y a des choses pour le Velvet Underground, parce que c'est les Velvet Underground et les Stooges, on n'aura pas le temps de les écouter.
Stéphane, juste pour situer, excuse-moi de te couper, en fait, il a été donc reporter aux Inrocs pendant à peu près 20 ans.
Je trouve qu'il a écrit
Et il a écrit un livre l'année dernière, qui s'appelle Blues Power, une histoire parallèle du blues. Bon, j'ai eu la chance d'être l'attaché de presse, et qui crée comme ça une mosaïque de portraits d'héros oubliés du blues, et il crée sa propre histoire... du blues, et je vous conseille ce livre. Et c'est vrai qu'il fait partie des signatures pour les gens qui s'intéressent au terreau des musiques américaines notamment et aux musiques un peu inclassables mondialement qui peuvent être le lien entre les musiques du monde et le rock. Stéphane Deschamps, il fait partie des plumes de gens qui nous ont permis de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, et on le salue.
Et eh ben tu me coupes l'herbe sous le pied, voilà, parce que j'aurais pas aussi bien dit.
Donc alors, maintenant, dorénavant, tu les découvres où les groupes qui potentiellement peuvent être les groupes qui créent ces albums que tu achètes pour la médiathèque?
Beaucoup par réseau, en fait. Beaucoup par réseau. Qu'est-ce que j'ai aimé l'année dernière? J'ai adoré Fontaine d'Issy. C'est Axel des Métro Verlaine qui m'a dit, en revenant de Londres, parce qu'ils avaient été joués à Londres, qui m'avait dit, il y a un groupe qui vient de sortir, qui est en Irlande, qu'on a rencontré, c'est génial. Beaucoup par grâce aux réseaux sociaux, en fait, puisque sur ma page Facebook, celle de la radio et surtout mon profil perso, j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans la musique. Et justement, puisque tu parlais Stéphane Deschamps tout à l'heure, j'ai découvert un certain William Zivilain que tu produis sur le profil de Stéphane. Quand Stéphane publie un truc sur Facebook en disant ça c'est super, moi je fonce dessus. Voilà, c'est un exemple. Ça passe beaucoup. Je me sers beaucoup des algorithmes YouTube, notamment pour faire mes playlists pour l'émission de radio. Ça fonctionne bien, et en fait j'observe surtout les labels, quoi. En fait, j'ai une vigilance et je suis très alerté sur une dizaine de labels. Le tien en fait partie, les éditions Miliani. Il y a Frémo Associé, parce que vous l'avez compris, je suis très attaché au patrimoine. Je crois que le patrimoine, c'est pas quelque chose d'arrêté, mais quelque chose de dynamique.
D'ailleurs, au sujet de l'émission Frémo Associé, que je conseille à titre personnel, on peut la réécouter.
Où peut-on réécouter
les podcasts? Sur le site de Principe Actif.
Sur le site de Principe Actif, dans l'émission Tour de Piste. C'était la dernière émission, la première avant la première émission déconfinée. Et puis la dernière que j'ai faite il y a un mois, je crois, avant d'être papa. Et en fait, ma vigilance va sur les réseaux sociaux avec des gens de confiance. Enfin, des gens de confiance. Là, on parlait de Stéphane, il y en a d'autres. J'aime bien le label No Format.
Sorti l'album Doumou Sangaré quelques semaines.
Tous les gens, tous ces gens qui défendent une musique à la fois affranchie des codes que l'industrie du disque et le marché du disque impose pour eux, et qui sont des défricheurs. Sublime Frequencies, le label de Seattle, que j'observe particulièrement et qui m'a fait découvrir entre autres Bombino, un bluesman touareg extraordinaire, Transgressive Records pour le rock, voilà, donc les labels, et puis maintenant tout ce qui navigue sur Internet. Si tu veux, là on parle de Stéphane, un gars comme Stéphane, pour moi c'est un label. Jean-Christophe Aplincourt, qui a été directeur du festival Le Rock dans tous ses états, et puis qui a dirigé l'abordage en tant que programmateur, je suis très vigilant à ce qu'ils écoutent. Quand ils me disent « faut que t'écoutes ça », je sais qu'à chaque fois, 9 fois sur 10, c'est dans le 1000, quoi.
Alors Jean-Christophe, que je salue à titre personnel également, Jean-Christophe Aplincourt, qui dirige dorénavant le 106, la salle de spectacle de Rouen, te prénommer, te t'appeler le Jonathan Richman d'Evreux, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est pas le seul, ouais.
Est-ce que tu avais une passion vraiment forte pour les modern lovers?
Oui. Ben forcément, on vient d'écouter le Velvet Underground. Je suis en train de me rendre compte qu'on est hyper à la bourre sur le programme. Donc forcément, les modern lovers. Ce côté musicien itinérant de Jonathan Richman, poète et un peu poète. C'est un de mes plus beaux concerts à l'Abordage Club. Puis en plus, c'est quand même assez génial quand un mec te fascine, quand t'as 16 ans, d'aller boire une bière avec lui à l'Abordage Club, où il y a eu quoi, 40-50 personnes. Et tu bois une bière avec lui comme n'importe quel type qui est à un comptoir. Sauf que lui, il fait partie d'une histoire. Il a écrit une histoire du rock. Et je trouve que ce truc-là, Evreux, c'était génial. Je peux me reconnaître facilement le talent en moins, hein, ce que je t'expliquais, que j'étais un très mauvais musicien, un très mauvais chanteur, et que c'est pas très grave. Ce côté un peu au-delà de la marinière, ce côté un peu...
C'est un beau conteur, en fait.
Poète échevelé, je sais pas si je suis un poète, mais ce côté, oui, musicien itinérant, un peu rêveur, c'est un personnage dans lequel je me reconnaîtrais facilement, ouais. Ouais, le talent en moins, enfin pas ce talent-là en tout cas.
Mais tu en as plein des talents, qu'est-ce qu'on va entendre maintenant, Laurent?
Eh ben on va être obligé, on a squeezé les Stooges, puisque les Stooges et le Velvet Underground font partie des groupes qui ont construit, quand à l'époque j'écoutais des groupes très de la culture dominante, enfin dominante dans les grands médias, ont été importants pour moi. On va faire un grand saut, on va écouter R.L. Burnside, j'y tiens, puisqu'on parlait tout à l'heure.
Et puis on parlera
de rencontres. Je trouve ce morceau extraordinaire, j'ai passé il n'y a pas très longtemps dans l'émission. Ça s'appelle Going Down South, et c'est la signature d'un certain R.L. Burnside.
I'm going where you are.
donc vous êtes sur l'émission Détour de piste, non pas Tour de piste, on détourne le micro et ici on invite l'animateur, l'arroseur arrosé, l'animateur animé, intervieweur interviewé, Laurent Niki. Je salue JC qui est un personnage très sympathique qui ici s'occupe de la réal, de la technique et qui me permet de poser mes questions à mon ami et à cet animateur qu'on découvre tout au long de cette playlist avec des questions sur son parcours, sur ses découvertes musicales. Je vais enfin pouvoir poser cette question avec ce micro. Mais toi, annule Laurent, s'il te plaît. Alors, Laurent, donc là, on vient d'entendre un gros morceau du blues du nord du Mississippi que je connais plutôt bien pour avoir évolué dans des cercles d'initiés du North Mississippi Blues. J'ai un ami qui disait notamment qu'il y avait deux types de festivals de blues. Le festival où on reprenait Sweet Home Chicago, et le festival, on reprenait Going Down South, donc le premier étant une reprise de Clapton avec une vision du blues peut-être un peu plus scolaire, on va peut-être se faire taper sur les doigts par certaines personnes, et le deuxième où on avait une vision un peu plus punk du blues. Pourquoi plus punk? Tu peux nous parler de la carrière de Burnside, toutes les collaborations avec les groupes de rock que le label Fouette Possum notamment a produit.
Alors oui, parce qu'à Burnside, donc alors je trouve avec Timo Delfort que c'est un des derniers pionniers cette authenticité toute américaine, que je trouve qu'il navigue à contre-courant. Il fait partie comme Muddy Waters, dont je crois il était un cousin un peu éloigné, de ceux un peu qu'on fait sortir lors des obouos du Mississippi. Je trouve qu'il incarne à merveille l'esprit du festival Les Nuits de l'Alligator, un festival de blues sans blues.
Toujours créé par les deux personnes qu'on a citées tout à l'heure, donc Stéphane Deschamps et Jean-Christophe Aplincourt, et Xavier Declercq de la Maroc.
Et puis, Going Down South, parce que, comme je te le disais en ouverture d'émission, pour moi la musique c'est aussi synonyme de rencontre. J'ai réécouté Going Down South en écoutant le premier album des Muddy Gurdy qui est sorti l'année dernière, il y a 2 ans déjà, il me semble. Muddy Gurdy, c'est un trio auvergnat avec guitare, chant, Marco percussion, Tia guitare, chant et puis Gilles Chabenat à la vielle à roue.
Ils sont aussi sympathiques que talentueux.
Ouais. Et puis, voilà, moi, ils jouent avec Cedric Burnside, le petit-fils de RL, Cedric Burnside avait tenu la batterie pour le concert ébruissien d'RL Burnside. Et je trouve que dans la vérité tout est lié en fait, c'est-à-dire que la vielle à roue c'est plutôt un instrument bien français, issu du monde rural. Et je trouve que ça se marie très bien.
C'est l'équivalent du fife and drum du Mississippi. C'est le même terreau déplacé sous une autre latitude.
Voilà, c'est ça. Et je trouve que l'ensemble fonctionne à merveille. Et puis, moi j'aime bien ces gars qui ont ces espèces de vie. Alors le morceau, vous l'avez, moi je trouve qu'il y a un son génial. Je trouve qu'il y a, voyez, une pulsation originelle, il y a un potentiel érotique inouï dans le blues. On parlait de Muddy Waters tout à l'heure. Je trouve ça hyper sexy.
Quelle est la place de l'érotisme dans ton rapport à la musique d'ailleurs?
Mais je crois que ce qui est à la base de tout, c'est forcément une pulsation sexuelle, quoi. Et je trouve que ce morceau
de Burnside... Tu sous-entends que le sexe est à la base de tout. Alors ben là, il va falloir que tu m'expliques.
Voilà, il y a un caractère pur dans cette musique, moi, que j'aime beaucoup. Et c'est ce que tu disais, assez bien. Il y a un esprit très punk dans cette musique. Elle est pas majoritaire dans les médias. C'est pas le blues d'Eric Clapton. Je critiquerai pas Eric Clapton.
Non.
Mais c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis ça incarne aussi c'est un des représentants de toute cette culture américaine et toutes ces déviances qu'on a pu avoir à l'abordage au rock dans tous les états pendant des années.
Est-ce que tu l'as vu en concert?
Alors, est-ce que j'ai le droit de dire quand même que j'ai raté RL Burnside quand il a joué à l'abordage club, je crois, qui était un concert extraordinaire.
Est-ce que t'avais une bonne excuse pour avoir raté ça?
Mais en fait, oui, j'avais une bonne excuse. C'est que je crois que j'avais vu tellement de bons concerts à Évreux cette semaine-là, que j'étais coquille. Crevé et que j'y suis pas allé et je m'en mords les doigts aujourd'hui, quoi.
Ah oui.
Voilà, c'était pour la petite anecdote.
Pour situer quand même, RL Burnside, c'est le pape du... Je sais pas comment on pourrait dire, du blues underground, certaines visions du blues et qui a rejailli à la fin des années 90 et qui, pour ma part, je dirais que ce personnage Et sans le travail de Fat Possum, on n'aurait pas les Black Keys, on n'aurait pas Jack White, on n'aurait pas tout ce terreau boueux de blues qui s'est ravigoté dans le rock à un moment, et puis avec les albums de duo avec John Spencer notamment, quoi.
Ah ouais, et tous ces petits blancs maigrichons pour John Spencer qui viennent des grandes villes, ou les Black Keys qui font, moi je trouve, un super blues tout aussi excitant. Il y a aussi des influences indiennes, je trouve, dans ce morceau. Sans Burnside et sans le travail des éditeurs musicaux comme Fat Possum, il serait sans doute tombé dans l'oubli. On serait peut-être pas en train de l'écouter en ce moment, et je trouve que ce serait vraiment dommage.
Alors, normalement, on a une heure d'émission, c'est ce qu'on a dit en préambule. Mais est-ce qu'on pouvait faire une heure simplement ? Est-ce qu'on pouvait faire simple avec Laurent, Nicky ? Est-ce qu'on pouvait ?
C'est pas moi qui vais répondre.
Eh bien, je vous annonce que l'émission durera 1h30. Sous applaudissements. Laurent, qu'est-ce qu'on va entendre tout de suite ?
Eh ben, on va faire la seule escale caribéenne de l'émission avec un gars qui s'appelle Laurel Aitken. Je suis très sensible aussi, donc je te disais, aux musiques des Caraïbes. J'ai découvert les musiques caribéennes, les musiques jamaïcaines qui ont préfiguré le reggae, les musiques comme le ska, le rocksteady et le mento, une fois de plus grâce à l'abordage, dans le cadre d'un partenariat avec eux et la médiathèque lors de l'avenue du Jamaica All Stars, dans le cadre d'un truc qui s'appelle Projection Rencontre Concert.
As-tu découvert aussi d'autres groupes de cette partie du monde grâce au travail de Frémo et associés?
Oui, notamment la musique, les calypso trinidadiens, dans une anthologie qui s'appelle Caribbean in America, que je trouve sublime aussi. Mm-hmm. Et puis quand j'écoute ça, j'ai l'impression que je suis au bord des Caraïbes, quoi. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Laurel Aitken. Et pour revenir sur les musiques jamaïcaines, alors moi, comme je te le disais, j'ai fait 4 ans d'internat en Bretagne, en école maritime. Il y avait cette espèce de cliché du petit blanc dreadeux qui s'inventait une conscience rastafari et qui nous faisait écouter du matin au soir Bob Marley. Donc j'étais parti sur des a priori négatives sur cette musique-là. En fait, je la trouve absolument sublime. Et c'est aussi, le vecteur par excellence, et un des vecteurs de l'africanité pour les descendants d'esclaves qui habitaient en Jamaïque. Donc quand il y a une histoire comme ça derrière, je trouve qu'il y a une intensité dans les morceaux qui est bien plus forte. Le morceau donc s'appelle Laurel, c'est Laurel Ken qui l'interprète. Ça s'appelle Come Back Jenny. Je pense pouvoir en tracer. Ça doit dater très certainement des années 60.
Same. I'm the one who is to blame.
D'accord, donc on vient d'entendre Laurel Atkin, Come Back Janie. A priori, un morceau, tu
disais... Un morceau sans doute des années 60. J'ai regardé assez rapidement sur les sites de référencement. J'ai pas trouvé de date. Vu le son, je trouve qu'il y a un son irrésistible là-dedans, un peu désuet, très charmant. Je sais les années 60, a priori, quand exactement, je peux pas te dire.
Alors, sans faire de métaphore minable, je vais me lancer dans quelque chose. Est-ce que tu as parlé des descendants d'esclaves tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que la musique... quelque part libère des chaînes et crée des liens. Et
exactement.
Entre les gens, ouais. Parce que notre amitié s'est forgée au départ autour de la musique et elle a pris une autre dimension. Mais est-ce que la musique, c'est pas aussi une des choses, un des aspects, un des arts qui permet de rentrer en contact avec les gens? Et finalement, même si on comprend pas les paroles, même si on n'a pas les codes, est-ce qu'on peut pas c'est juste les séparer ses émotions? C'est toujours difficile en France... de parler de musique savante sans en connaître forcément les codes, mais est-ce que néanmoins ça nous empêche d'être touchés par je ne sais quelle œuvre de classique? Est-ce que finalement c'est pas très important? Est-ce que finalement c'est pas l'émotion qui est au centre de tout? C'est pas vraiment une question, c'est plus un...
Et puis l'émission, parce que tu
un plaidoyer.
Oui, oui. L'émotion, effectivement, on n'a pas forcément besoin de comprendre les textes d'un morceau pour ressentir quelque chose.
Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis grâce à la musique? Est-ce que tu t'es fait des ennemis grâce à la musique?
Sûrement.
Ou à cause de la musique?
Sûrement, j'en sais rien, mais sûrement.
Est-ce qu'il y a des débats inavouables?
Ah, je me suis battu une fois avec un fan de Genesis. Ah.
À propos de quoi?
Non,
le son de batterie de Phil Collins.
J'en sais rien en fait. Je me suis fait beaucoup d'amis, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des guerres en Normandie entre villes, entre Évreux et Rouen, entre Rouen et Le Havre?
Je vais pas répondre à cette question. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je serais pas capable de répondre. Il y a des espèces de taquineries de. Tu vois, je veux dire, la Seine-Maritime, c'est à côté. Rouen, c'est une grande ville. Nous, on est dans une petite ville. On vient d'un département rural. Donc forcément, je sais, moi, ça m'arrive, quand je vais au 106, de me faire un peu chahuter. Parce que, voilà, ça m'arrive de me faire traiter de plouc. Mais je pense que c'est plutôt de bonne guerre, quoi.
Un plouc lumineux.
C'est plutôt de bonne guerre. Je pense pas qu'il y a pas d'animosité derrière ça. C'est plutôt un jeu. Et puis, non, je crois pas que... Non, ça se passe plutôt bien.
Et est-ce que ce jeu vaut encore la chandelle? Je veux dire, est-ce que toi, Laurent, est-ce que tu es encore émerveillé maintenant que tu es émerveillé par la naissance de ton fils? Est-ce que tu es encore émerveillé par des découvertes musicales?
Alors,
tout comme tu as pu l'être dans ton adolescence ou
alors mon fils
dans tes
n'a
premières années.
Que 6 semaines, donc pour moi c'est la merveille centrale. J'ai pas écouté beaucoup de nouvelles choses. Je pense que mon énergie amoureuse est très concentrée vers lui et que pour l'instant, c'est pas forcément le moment de faire des grosses découvertes. J'en ferai plus tard. Je peux très bien en faire une dans une heure, j'en sais rien. Oui, je vais continuer à faire des très belles découvertes. Forcément. Même si je te dis aujourd'hui, il est omniprésent, quoi. Il le sera jusqu'à la fin de ma vie. Oui, bien sûr que je vais continuer à faire des belles découvertes.
Est-ce que, Laurent, tu as eu des coups de cœur sur des productions hip-hop il y a longtemps?
Oui.
Est-ce que c'est une musique qui te parle à l'heure où ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse les musiques urbaines tiennent le haut du pavé dans les classements de stream et de vente d'albums en France? Alors que nous, par exemple, on vient d'une génération, on a écouté NTM, donc... Et c'est quand même une musique qui a 40 ans, le rap. Et maintenant, beaucoup de gens semblent le découvrir. Est-ce que toi, tu es encore en découverte d'artistes hip-hop ou pas du tout?
Alors, ces dernières années, parce que je suis moins en alerte là-dessus, c'est pas. Enfin, d'ailleurs, c'est parce que c'est comme ça. J'aime beaucoup le hip-hop. Je fais des découvertes magnifiques. Comme je te disais, j'ai quand même une culture qui a d'abord été basée sur une culture assez rock. Et je suis venu au hip-hop assez tard, et dans les années 90, notamment par rapport au boulot, j'ai découvert l'âge d'or du hip-hop. Donc si tu veux, quand j'écoute du hip-hop, j'ai beaucoup aimé la rappeuse anglaise Speech de Bell,
Ah, je connais pas. C'est quoi?
Production que j'aime bien.
Ça date de quand?
Ça a quelques années. Son premier album sorti il y a quelques années. Je trouve que c'est très mélancolique. Il y a un son extraordinaire, l'énergie folle. C'est un précaré masculin aussi, le monde du hip-hop. Et je pense que quand on est une nana pour se faire une place là-dedans, il faut en avoir, comme on dit. C'est une sorte de Patti Smith un peu des temps modernes.
Alors, en Nicki féministe, donc?
Oui, misogyne et féministe, comme la majorité des hommes. Et en fait, ma culture hip-hop, moi, je l'ai plutôt faite dans les années 90, donc avec l'âge d'or du hip-hop, avec des groupes comme Cypress Hill, qui est quand même très rock, De La Soul, A Tribe Called Quest, voilà, tous ces groupes-là. Et je suis moins en alerte sur le hip-hop, mais je fais quelques belles découvertes de temps en temps.
Tout à l'heure, tu as parlé de Paris. Tu as cité cette ville capitale, notre pays. Est-ce que tu as dans ta jeunesse, est-ce que tu vas encore maintenant, dans ta jeunesse un peu plus poussée, assister à des concerts dans la capitale? Qu'est-ce que ça te procure? Est-ce que tu as des souvenirs marquants? Est-ce que quand tu étais jeune, tu es allé chez certains disquaires où tu as pris ta voiture ou pris un train pour faire... C'est une heure de train, Ivre-Paris?
Ah, une petite heure de train, ouais.
Est-ce que tu as des souvenirs marquants qui relient la proximité entre Évreux et la capitale et notre discussion principale qui est la musique? Dans cette émission, que je rappelle pour les auditeurs et auditrices qui prendraient la radio en route, des tours de piste où l'intervieweur est interviewé. Donc j'ai la chance d'interviewer Laurent Nicki.
Et je vais répondre à ta question du coup. Donc Paris a joué un rôle très important dans ma culture musicale, parce que je suis fils de cheminot, donc je payais pas le train quand j'étais en école, enfin scolarisé. Et j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai passé le Velvet, et on n'a pas passé les Stooges parce qu'on n'a pas eu le temps. J'ai fait une grande partie de ma culture musicale qui s'est faite dans les clubs parisiens, notamment et surtout à la Locomotive, à l'époque où j'étais encore mineur, et à l'école maritime en Bretagne, où je passais tous mes dimanches soirs à écouter les DJ. Bon, moi, grosso modo, je passais...
Là, on est en quelle année, là, à peu près?
Là, je crois qu'on est en 89, 90, certainement en 90, où j'ai découvert le Velvet, j'ai découvert un peu avant les Stooges. Les Cramps, j'ai découvert Nirvana quasiment en direct.
Ah oui.
Puisque bon, il y avait pas internet, donc
Est-ce que tu as vu Nirvana sur scène?
Non, j'ai pas vu Nirvana sur scène, je le regrette. Je pense que c'est un des derniers grands phénomènes de rock à guitare. Je me rappelle qu'en 90, quand les DJ passaient les maxi 45 tours de Smells Like Teen Spirit, ça nous rendait tous dingues. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, c'est génial. Ça provoquait une hystérie dans la salle. Et voilà, dans ce club-là, il passait les Rolling Stones, enfin tout l'underground new-yorkais, la vague psychédélique, tous les groupes Manchester, New Order, Joy Division. Et j'ai fait ma culture musicale là-dessus. Et quand j'ai poussé les portes de la Locomotive, j'ai vraiment poussé les portes d'un autre monde, quoi. J'ai trouvé ça génial. J'y passais tous mes week-ends. J'achetais des disques quand je pouvais. J'avais pas trop de thunes. Et le peu d'argent que j'avais, je me payais des places je me payais mes entrées à la Locomotive. Et puis un autre truc, c'est quand tu es au fin fond du Finistère Nord, dans une école maritime où il y a que des mecs, et que tu passes ton week-end à la Locomotive, où moi j'avais 18 ans, et il y a quand même, c'est le temple de la drague à Paris, quoi. Il y a toutes les plus belles filles de Paris. Et que t'écoutes de la musique comme ça, c'était, il y avait une espèce de truc un peu schizophrénique, où j'avais deux vies, quoi. En fait, moi, je rentrais en Bretagne la semaine pour étudier l'élevage des poissons en milieu rural, et je passais mes dimanches, à Paris, à chiner quelques disques quand il me restait de l'argent, et puis à écouter ce que passaient les DJ.
Voilà. Est-ce que t'as des souvenirs de concerts marquants vraiment de ta vie, en fait,
à Paris ou en général?
En général.
Ah ouais, mais j'en ai tellement. J'ai vu Iggy Pop le jour de mes 30 ans. Bon, c'était le chaos total, c'était génial. Les concerts que j'ai préférés de toute ma vie, j'en dois beaucoup, une fois de plus, à l'abordage. J'ai beaucoup aimé le concert d'Anthony and the Johnsons à Évreux. J'ai adoré le concert de Jonathan Richman. J'ai beaucoup aimé le concert de LCD Sound System, de Suicide, Rock dans tous ces états. Et en fait, je voyais tellement de concerts à Évreux que j'en voyais pas beaucoup ailleurs qu'à Évreux.
Est-ce que tu avais une place particulière du fait de tes implications dans la musique T'es animateur depuis quelle année, en fait, sur
Principe Actif? Alors, animateur sur Principe Actif, c'est la dernière émission de la 7e saison.
D'accord.
Elle m'a permis beaucoup de belles rencontres. Et puis, il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Voilà, c'est la 7e saison. J'ai l'impression que j'ai commencé hier. Et JC qui tient la régie, quand je tiens la régie, pourrait dire qu'effectivement, on a l'impression que j'ai commencé hier. Même si j'ai fait des progrès, j'espère.
Et est-ce que t'avais une implication dans le festival rock dans tous ses états?
Oui,
j'ai découvert ce festival en 2016, qu'il y a un artiste que je produis qui s'appelle Bror Gunnarjansson, qui a été programmé en dernière minute au festival, il me semble. Est-ce que ce n'était pas la dernière édition du festival?
Si mes souvenirs sont bons, et ma charmante épouse Camille était forcément en premier rang en tant que fan de Bror Gunnarjansson.
Que l'on salue.
Je crois que c'était la 34e et la dernière édition du regretté rock dans tous ses états. Avec effectivement Bror Gunnarjansson que tu produis, qui est arrivé sur...
Tu avais un rôle de bénévole de...
Non, j'ai jamais souhaité être bénévole au Rock dans tous ses états pour une raison simple, c'est que je voulais le vivre en tant que spectateur. J'ai longtemps été bénévole, j'étais bénévole à l'abordage, et très vite, avec l'équipe de l'abordage, j'ai eu des liens, j'étais assez proche. On a travaillé ensemble avec la médiathèque, et j'ai été bénévole en tant que barman.
D'accord.
Et puis un tout petit peu, j'ai un peu fait le catering de la salle, ce qui avait plutôt tendance d'ailleurs à m'emmerder. Mais sinon, j'étais content d'être bénévole au bar, quoi. Ça m'a permis aussi de bosser ailleurs, de voir un autre fonctionnement. Et puis après, on a travaillé ensemble avec la médiathèque. C'est pas facile de faire travailler à l'époque une association comme l'abordage et une institution comme la médiathèque. Mais c'était possible parce qu'on en avait tous les deux envie.
Est-ce que t'as toute main libre pour choisir les intervenants des conférences, comment tu les appelles d'ailleurs, ces rencontres à la médiathèque?
Pour l'instant, elles n'ont pas de nom précis.
Masterclass Laurent Niki.
C'est des rencontres. Mon nouveau directeur m'a demandé de trouver un nom. J'en ai pas trouvé pour l'instant. Je suis pas très bon pour trouver des noms. J'ai absolument carte blanche. Les rencontres, donc tu parlais tout à l'heure, il y aura, j'espère, Francis Dordor bientôt, qui devait venir en juin.
Et qui a écrit un bel ouvrage sur Bob Marley, dont j'ai eu la chance d'être attaché.
Il y a aussi chargé de promo. Il y a eu Serge Elaïc, donc il y a eu Stéphane Deschamps, il y a eu Thierry Jourdain.
Serge Elaïc, que l'on salue.
Que l'on salue, s'il nous écoute.
L'ami Serge Elaïc.
Probablement, l'ami Serge Elaïc. Et il y a eu Thierry Jourdain, en fait.
L'ami Serge Elaïc, qui a quand même écrit il a pas jeté un pavé dans la mare, il a écrit un
livre, on en parlera après.
Un livre incroyable, on en parle maintenant, on en parle plus tard.
Je vais en parler. J'ai évidemment, il y a un morceau qui illustre la rencontre avec Serge.
D'accord. Donc on va passer peut-être à un extrait musical.
On en parlera tout à l'heure.
Dans cette demi-heure de plus de détour de piste.
Mais oui, pour répondre à ta question, j'ai carte blanche. Je programme des gens, quel que soit le champ esthétique abordé, des gens dont je suis admiratif du travail, que ce soit de la chanson française, que ce soit les chefs d'orchestre de la chanson populaire, que ce soit du blues ou de la musique jamaïcaine. Et on va poursuivre, parce qu'on va réussir à prendre du retard sur l'émission d'une heure et demie, telle que c'est parti, avec John Forte et Fire Horse, qui est pour moi la bande-son de ma rencontre avec celle qui partage ma vie, la mère d'Hippolyte, de mon fils. Donc c'est une chanson qui me fait toujours penser à Camille, c'est un duo très sensuel entre John Forte et Fire Horse, et ça s'appelle Your Traveling Light.
The Savior is gone. The Savior is gone. Your traveling light has left you alone. The Savior is gone. The Savior is
that you've ever done.
And though I've tried love, because what I've seen with these eyes of mine don't add up to what you need. I believe what I gotta give will be enough to feed. Just hold on me, oh please, shine your light on.
We can call it what we want, but we got vision. Love is love, so many fell, but a lot's risen. I believe in the babies like God's wisdom. I shine a light and receive with the courage. If it's nature over nourish, I believe till I perish. Thank you, love, forever cherish. Thank you, love.
Courage come and courage leave. As you crawl across the land, there's pain in your
Merci Laurent pour cette confession musicale très agréable. Je remercie JC à la Réal, la radio Principe Actif, qui me permet de t'interviewer et de découvrir ton univers et par là même de discuter des émotions qui nous animent et qui nous font nous rencontrer. Je suis content de venir ici vraiment du fond du cœur. On a parlé tout à l'heure de l'ami Serge Elhaïk. Et de son travail remarquable que j'ai rencontré pour la première fois lors d'une de tes conférences organisées à la médiathèque. On va entendre tout à l'heure un morceau de Charles Aznavour qui évoque notamment son travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Serge et sur le morceau qu'on va entendre ?
Alors j'ai choisi hier encore, je voulais parler de la nostalgie dans la musique. Je vais quand même aussi essayer de retrouver mes notes, parce que j'ai noté des choses. Pour moi, cette chanson hier encore, c'est celle qui a clôturé le premier volet des émissions que j'ai fait avec Serge Elhaïk. Parmi mes rêves, quand j'ai commencé à faire de la radio associative, il y avait, parce que je savais que Serge avait écrit un livre sur Paul Mauriat, l'arrangeur d'Aznavour. Je rêvais de les deux. Il est souvent à la maison de la radio, il est à l'émission régulièrement.
Sur France Musique.
Sur France Musique, et je rêvais de l'avoir à l'émission. Et puis j'attendais d'être un peu plus chevronné quoi en tant qu'animateur avant d'inviter Serge
pour recevoir cette sommité.
Et j'ai croisé son fiston David à la médiathèque. Je lui dis j'aimerais bien inviter ton père à l'émission, peut-être sur son bouquin sur Paul Mauriat ou je sais pas j'en sais rien. Il me dit papa est en train d'écrire un bouquin de plus de 2200 pages sur les arrangeurs et les chefs d'orchestre de la chanson française.
Une bible.
Je ne savais pas avant d'avoir attaqué ce livre et d'avoir proposé à Serge de venir à l'émission, ce qu'était qu'un arrangeur, et je ne savais même pas ce qu'était qu'un chef d'orchestre de variété.
Je ne savais même pas, alors que c'est quand même, mon boulot, c'est quand même de travailler dans une bibliothèque municipale.
C'est quoi ton rapport, d'ailleurs, toi qui parlais de scène underground et qui a évoqué de nombreux groupes.
Ce que je te disais.
Ton rapport à la variété musicale, aux choses qui marchent. Est-ce que tu es un ayatollah ou est-ce que tu es...
Je ne suis pas du tout, en fait. Moi, je trouve qu'il faut prendre la beauté là où elle est, quoi. Et je te parlais de Macias tout à l'heure, avec des arrangements pour la plupart signés Claudric. Je trouve qu'il a fait certains morceaux qui sont magnifiques. Je trouve que ce morceau d'Aznavour, Hier encore, je trouve que c'est le morceau parfait, quoi. Au niveau des textes, il y a l'importance de l'orchestre aussi, dans l'émotion que ça, à laquelle ça renvoie. Et puis, il y a la notion de nostalgie. Alors, pour revenir sur Serge, moi, je me suis dit, oh là là, putain, plus de 2200 pages sur des gars que personne connaît. Oh là, je vais, dans quoi je me suis embarqué. J'ai dû lire 25 entretiens sur les 200 de ce livre, Les Arrangeurs de la Chanson Française. J'ai trouvé ça passionnant. Ça m'a fait voyager dans les colonnes du temps. C'est-à-dire que je me suis réapproprié
un héritage.
Voilà, l'héritage de ce qu'écoutait mon père, Brel, Brassens, Ferré, Edith Piaf, etc. Ce qu'écoutait ma mère.
Est-ce que t'as fouiné beaucoup dans la discothèque parentale avant de découvrir par toi-même?
Non, parce que j'ai à la maison, je me suis acheté ces disques-là aussi, tu vois, enfin, Ferré, etc. J'ai pas été dans la discothèque familiale.
C'est des souvenirs qui sont revenus a posteriori quand toi t'as fait la rencontre avec ces artistes-là.
A posteriori. Et puis, ça je le dis souvent, on peut aussi parler de Nougaro, que mon père adore. Quand j'ai réécouté notamment Aznavour et Piaf, etc., avec les interactions et les explications de Serge, j'ai eu l'impression de me les réapproprier et les écouter pour la première fois, alors que je les ai écoutés 1000 fois, 2000 fois.
Encore une première fois.
Encore une première fois, comme cette première émission avec Nicolas Migani en tant qu'animateur. Encore une première fois. Et puis, Serge nous expliquait aussi, pendant cette émission, l'importance de l'orchestre, l'importance aussi... moi, je trouve qu'Aznavour incarne à merveille la notion de nostalgie, mais aussi la puissance des sentiments face aux idées. Pour moi, comme sans doute beaucoup de gens, la musique est le principal facteur de déclenchement de la nostalgie. Elle améliore volontiers mon humeur. Et puis voilà, c'est encore l'histoire d'un Pourche à Aznavour, un des artistes qui vient d'un milieu modeste, encore un fils d'émigré arménien, qui a écrit parmi les plus belles pages de la chanson française. Et puis Serge, ça restera, dans les nombreuses très belles rencontres que j'ai fait à la radio, une des plus belles.
Oui. Voilà,
donc quand j'entends Hier encore de Charles Aznavour, c'est souvent à lui que je pense.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans?
nostalgie. C'est quoi la place de la nostalgie dans ton rapport à la musique d'ailleurs, Laurent?
Oh, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est toi qui me l'avais dit l'année dernière quand t'es venu parler. C'était assez bien résumé. C'est ce qui nous reste quand les gens sont partis. Je trouve que c'est pas la peine d'en faire plus. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit.
La musique, ce qui nous reste quand les gens sont partis.
Ouais. Et je trouve que c'est une belle définition. Je crois que c'est pas la peine d'en dire plus. Mais bon.
Est-ce qu'il y a un rapport à l'Angleterre dans ton rapport à la musique?
Alors oui,
est-ce que le fait qu'il y ait ce cordon de mer qu'on appelle la Manche qui sépare notamment la Normandie de l'Angleterre, est-ce que ça nous rapproche pas d'une certaine émotion rock'n'roll
d'autant
populaire?
On disait tout à l'heure, on est en Normandie, donc on est quasiment en face de nos voisins d'outre-Manche. Moi, je suis pas un gros fanat de rock anglais. Enfin, ça veut pas dire grand-chose, pas être un gros fanat de rock anglais. J'ai beaucoup aimé Joy Division, j'ai beaucoup aimé les Smiths à l'adolescence. C'est pas le... Plus généralement, c'est pas la scène que j'observe le plus, mais en fait...
Pourquoi? Parce qu'elle est moins proche des racines blues et que...
C'est pas sûr qu'elle soit moins proche, enfin, je sais pas, oui, peut-être.
Ouais, peut-être, encore, c'est peut-être,
mais en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours des groupes anglais que je trouve géniaux, quoi. On parlait des Smiths, je suis un fan de The Fall.
Les Kings,
j'écoute les Beatles, j'ai adoré les Rolling Stones, même si je les écoute plus aujourd'hui.
Les Small Faces,
un peu en moindre mesure.
Van Morrison.
En moindre mesure.
Les Irlandais, mais bon.
En moindre mesure, quelques titres. Je sais qu'en Normandie, enfin, il y a ces connexions, sans doute qu'elles ont permis aux Normands qui aimaient le rock
de partir du Havre,
Partir du Havre avec les relations transmanche. À la limite, quand je parle de rock, je préfère parler de rock en anglais, en fait, que ce soit américain ou qui viennent d'Angleterre ou d'Irlande ou d'Écosse. J'ai l'impression, tu vois, on parlait du Velvet Underground. Moi, j'ai découvert ce qu'on appelle le rock à guitare à l'adolescence. C'est quand même un animal, enfin, c'est le rock à guitare, ça a 60 ans, c'est quand même une vieille bestiole, quoi. C'est un truc, on pourrait penser que c'est un truc de vieux.
Un peu plus, non?
Même moins, plus, je sais pas, on va dire 54, Elvis Presley, à peu près, quoi, les premières sauts de rockabilly.
Est-ce que le rock'n'roll a sa place à l'EHPAD ou est-ce qu'il a encore sa place chez les jeunes? Jeunes, justement, dont on parlait tout à l'heure de 15 ans, est-ce qu'ils peuvent être encore émoustillés par une émotion, moi, j'ai pas de frontière musicale, mais est-ce que le rock n'est pas désuet?
Est-ce que le rock n'est pas immortel? À chaque fois que je me dis ça,
c'est pas une salamandre, le rock and roll.
À chaque fois que je me dis, ouais, j'en ai marre de tous ces groupes indés. Des fois, j'en écoute 200 pour en aimer un. Et chaque année, débarque son lot de surprises, ou d'États-Unis avec des groupes comme Parquet Courts, ou d'Angleterre avec des groupes comme Fat White Family, Fontaine D.C. Qui sont qu'abordent l'héritage lapsus révélateur de tout l'après-punk et de toute la musique punk avec une énergie très contemporaine. Et l'année dernière, en 2019, j'étais très surpris et je te disais, c'est Axel des Métro Verlaine qui me disait, ouais, faut vraiment que t'écoutes ça s'appelle Fontaine D.C. Il y a 2 ans, j'avais adoré Idols, un groupe punk rock anglais.
J'avais vu comment ça s'appelle le festival de Saint-Malo, la route du rock.
La route du rock. Et chaque fois, au moment où je me dis que non, bah ce rock à guitare, c'est fini. À chaque fois, il y a des formules un peu basiques en apparence, qui me surprennent. Je tombe de ma chaise quand j'écoutais Fontaine d'ici.
Le rock, est-ce que c'est pas comme les pâtes? Je parle à descendre en italien. C'est pas comme les pastas. Finalement, c'est toujours la même base, mais il y a toujours des gens qui arrivent à en faire une recette personnelle.
Eh ben, c'est un peu
qu'on
ça.
Aime et qu'on eh ben, et vers laquelle ça. On a envie de repartir, de se plonger dans cette gamelle, en fait.
Eh ben, et c'est exactement ça, Nicolas. Et je propose, puisque il reste plus que 6 minutes avant de rendre notre
déplacement. Le pont avec l'Angleterre, c'est un groupe anglais qu'on va entendre ou pas?
C'est un groupe irlandais de Dublin. Irlandais. Il s'appelle Fontaine City pour Dublin City. L'occasion, avant de se quitter, de te remercier, toi, de m'avoir invité dans ma propre émission.
Je t'ai invité chez toi, c'était un plaisir.
Un grand merci à JC et l'équipe de la radio.
Merci beaucoup, Principe Actif, pour mon baptême du feu d'animateur.
Un merci aux auditeurs pour leur fidélité.
Et merci aux auditrices pour leur fidélité aussi.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Merci Nicolas, merci JC. On se quitte avec un morceau extrait de l'album Dogrel des Fontaines d'Issy. C'était leur premier disque, il est sorti en 2019. Et le morceau s'appelle Too Real. Bonne soirée et on se retrouve en septembre.
Merci.
Is it too real? Is it too real?